Les cours du Collège de France.
Merci beaucoup d'être là si nombreux aujourd'hui, d'avoir bravé la neige, les trottoirs très glissants du quartier latin, pour être ici aujourd'hui pour ce premier cours donc de la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt, qui cette année traitera des technologies quantiques émergentes. Donc c'est le premier cours sur une série de 8 et je vais prendre quelques minutes de ce premier cours pour expliquer le positionnement que j'ai choisi de prendre pour construire ce cours. Et pour cela, je vais en fait partager avec vous une expérience que j'ai faite il y a 10 ans. Je vais participer à un workshop sur la côte ouest des États-Unis qui était dédié au réseau quantique. Dans ce workshop, le premier jour, nous avions des théoriciens qui présentaient leurs travaux sur la vision qu'ils avaient, les architectures qu'ils développaient pour penser les réseaux quantiques de demain. Il faut imaginer l'équivalent des réseaux de communication actuels qui combinent satellites, fibres, Internet, ordinateurs, capteurs, etc. Ces chercheurs réfléchissent à la façon d'implémenter ce genre de réseau en exploitant les technologies quantiques. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, il y avait des expérimentateurs comme moi qui partagions l'avancée de nos travaux sur le développement des systèmes quantiques physiques, donc le hardware en anglais, qui permettent de mettre en œuvre ces technologies quantiques. Je peux vous dire que la distance entre les deux mondes était absolument vertigineuse. Entre le besoin requis dans les architectures pensées à l'époque et les développements technologiques de l'époque, il y avait une distance très très grande. Cette distance aujourd'hui est toujours extrêmement grande. Ce qui rendait le workshop très intéressant, c'est que les organisateurs avaient invité des acteurs de la révolution technologique du XXe siècle qui avaient participé à la construction des réseaux de communication tout au long de l'histoire. Donc des personnes plutôt expérimentées, soit du monde académique, soit du monde industriel, qui avait vécu cette transition absolument incroyable, qui a vu en 70 ans notre monde se transformer entre, dans les années 30, le téléphone qui était encore commuté à la main par des opératrices pour connecter deux points distants aux États-Unis, ou encore des ordinateurs qui remplissaient des pièces entières, qui n'étaient pas très puissants et assez peu fiables, jusqu'au monde qu'on a connu dès la fin du XXe siècle avec des smartphones qui sont simplement des ordinateurs. Téléphone, capteur, tout ça combiné qui se connecte instantanément à chaque point du monde. Et la leçon que nous avons tirée de ce workshop, c'était que ces acteurs qui avaient vécu la première révolution technologique, eh bien, nous ont d'une certaine façon expliqué que à l'époque, personne n'avait anticipé la façon dont les choses allaient évoluer. Et que sur chaque problème concret technologique, il y avait plusieurs dizaines de solutions qui avaient été explorées au niveau fondamental. Je vais prendre par exemple un exemple. Comment faire traverser le signal de communication par fibre optique de l'Europe aux États-Unis? Comment faire cette connexion avec les pertes en ligne que nous avons sur les fibres optiques? Eh bien, il y avait un certain nombre de solutions qui avaient été développées. Et finalement, il y en a une qui a émergé. Mais cette solution qui a émergé, elle a émergé grâce à toutes les approches parallèles qui ont été explorées et qui ont fait que deux idées d'un côté ont influencé le chemin d'un autre, etc. Et donc aujourd'hui, quand on m'a proposé de prendre la chaire d'innovation technologique et de parler de technologie quantique, j'avais deux possibilités devant moi. Soit je partageais avec vous pendant 8 cours essentiellement le cœur de mes recherches, c'est-à-dire comment générer de la lumière quantique, des photons et comment développer des technologies quantiques avec elles. Ou alors tenter de vous donner un aperçu plus large des technologies qui sont développées, qui contribuent au développement de ces technologies quantiques émergentes au sens large, avec l'idée qu'il y a par derrière, et que je partage très fortement, que ces développements technologiques sont influencés les uns avec les uns des autres. Et finalement, on peut extraire les concepts les plus importants qui rassemblent maintenant l'ensemble de ces systèmes pour essayer d'avoir une vision globale des besoins, des défis qui nous attendent pour développer ces technologies quantiques. Et donc, ce que je vais essayer de faire dans ce cours, c'est donner une introduction aux technologies quantiques en introduisant les concepts les plus simples possibles, Je vais introduire le minimum de concepts, un minimum dans les trois premiers cours, et ensuite mon objection, c'est avec ces outils de base que j'aurai développés, vous donner un aperçu de la science en marche, et de couvrir donc, avec une formation élémentaire de mécanique quantique, illustrer les développements récents dans un grand nombre de plateformes qui sont développées pour les technologies quantiques, et puis là où je pourrais de temps en temps donner des précisions pour les experts. Les technologies quantiques dont nous allons parler, dont j'avais déjà parlé pendant la leçon inaugurale, qui visent à exploiter la superposition quantique et l'intrication, sont des développements technologiques très pluridisciplinaires, qui demandent des efforts, des travaux de recherche en physique, en ingénierie, je rajouterai en technologie, nanotechnologie, algorithmique, mathématique, informatique. Et bien sûr, ce que je vais pouvoir vous partager avec vous, c'est le point de vue d'une physicienne expérimentatrice. Alors, ce que nous voulons faire, c'est exploiter les concepts avancés de la mécanique quantique que nous avons déjà abordés pendant la leçon inaugurale. Le premier de ces concepts, c'est la superposition quantique, que j'avais illustré avec le fameux chat de Schrödinger qui est vivant et mort à la fois. Dans des systèmes physiques concrets que nous allons voir ensemble, on considérera par exemple l'état d'un photon, un quantum d'énergie de lumière, qu'on mettra dans un état superposé de deux polarisations, polarisation verticale, horizontale, donc c'est l'oscillation du champ électrique, ou encore qu'on pourra mettre dans un état superposé, par exemple, de fréquences, de longueurs d'onde encodées sur un même photon. Le deuxième concept avancé que nous allons exploiter, c'est l'intrication quantique, qui est finalement une autre superposition quantique, mais quand on considère, par exemple, l'état de deux particules, particule A, particule B. J'écris ici à nouveau l'état de deux particules sont les photons, que j'avais également illustrés pendant la leçon inaugurale, qui ont été utilisés pour faire des communications quantiques par satellite, qu'on va pouvoir mettre, par exemple, dans cet état qui est un état de Bell, où les deux photons A et B sont en polarisation H, plus les deux photons A et B sont en polarisation V, et puis, bien sûr, j'ai un 1 sur racine de 2 pour normaliser mon état. Ce qui nous intéresse particulièrement avec ce type d'état, qui sont des états maximalement intriqués, c'est que si je fais une mesure sur un des photons, le photon A, alors je reprends mon état de photons, de deux photons intriqués, A et B, qui sont tous les deux dans une superposition d'être tous les deux en polarisation H et tous les deux en polarisation V. Ce qui nous intéresse dans ces états, c'est quand je fais une mesure sur un des photons, et donc j'applique par exemple le formalisme du projecteur ici, qui va lire si le photon A est dans la polarisation H, mais ne pas mesurer le photon B, c'est-à-dire ne rien faire au photon B, donc identité de B, eh bien l'état projeté après la mesure, ce sera le photon B dans la polarisation H. Et donc à chaque fois que je mesure le photon A dans une polarisation, avec cet état-là, je vais mesurer le photon B exactement dans la même polarisation. On a des corrélations parfaites, et ce sont ces corrélations parfaites qui nous intéressent dans les applications que nous voulons développer. Alors je dirais que si j'essaie de classifier les applications dans plusieurs catégories, on peut dégager deux grands types de catégories. La première catégorie, ça va être de traiter l'information en utilisant cette superposition quantique. C'est ce qu'on appelle le traitement quantique de l'information. C'est ainsi qu'on va passer du bit d'information classique qui va prendre deux valeurs, soit 0, soit 1, au bit d'information quantique qui va donc pouvoir prendre cette superposition arbitraire de deux valeurs, alpha 0 plus bêta 1, avec alpha et bêta des nombres complexes, dont le module, la somme des modules au carré, par normalisation toujours de notre état quantique, vaut 1. Et donc on peut illustrer l'espace des paramètres accessibles pour décrire ce bit d'information. Dans le bit d'information classique, on ne peut prendre que deux valeurs sur une surface d'une sphère à deux dimensions, tandis que cette équation sur alpha et bêta décrit simplement la surface d'une sphère de rayon 1. Et donc on a un premier type d'application qui va s'attacher à encoder l'information sur du superposition quantique pour faire des calculs de manière plus performante, échanger de l'information de manière sécurisée, etc. Le deuxième type d'application que nous développons avec ces technologies quantiques, je les mets dans une catégorie plutôt nouveaux instruments de mesure. C'est l'idée d'utiliser ce système quantique qu'on maîtrise très fortement, très précisément dans tous ses degrés de liberté, et de le coupler soit à notre système quantique, soit à un système classique. Et comme on connaît très précisément les propriétés de notre système quantique, en retirer de l'information sur le système classique avec lequel on le fait interagir. Et donc c'est le domaine des capteurs quantiques, mais pas seulement. Et c'est ce type d'application qui sera illustré en deuxième partie de cet après-midi par notre orateur et invité Jean-François Roch cet après-midi. Et ensuite, si on prend un peu de recul, eh bien, d'un point de vue international, on classe les catégories d'application des technologies quantiques en quatre grandes sections. Les capteurs quantiques, qui sont justement ce type d'objets qui permettent de mesurer des quantités physiques en couplant un système quantique à un système, par exemple, classique, qui permettent de mesurer avec des précisions extrêmes des champs électriques, des champs magnétiques, la gravité, ou d'avoir une précision sur la définition du temps toujours plus grande. C'est aussi la simulation quantique. Alors, j'ai pris un exemple ici où on va maîtriser non pas un système quantique, mais plusieurs, par exemple des atomes ici qui sont piégés dans des pinces optiques et qui vont être positionnés dans une forme particulière qui reproduit un cristal, par exemple, le cristal qu'on a dans un nouveau matériau ou dans un solide. Et en connaissant justement et en mesurant les propriétés de nos systèmes quantiques, déduire les propriétés de ce système artificiel qui est construit à partir de systèmes quantiques individuels. Et puis nous avons... Alors, excusez-moi, cette simulation quantique, elle est parfois mise dans la catégorie d'un calcul quantique analogique. On ne manipule pas des 0 et des 1, mais on essaye de résoudre de façon analogue des problèmes physiques, par exemple, très complexes, simuler de nouvelles molécules, simuler de nouveaux matériaux. Et puis, il y a le calcul quantique au sens digital du terme, comme nous le faisons actuellement avec les ordinateurs classiques, où on va manipuler l'information, les 0 et les 1, et dans ce domaine-là, eh bien, on a le premier développement des premières machines, qui sont des machines imparfaites, comme celles que j'ai montrées au milieu du XXe siècle. Et puis, les enjeux actuellement, c'est de faire grandir la taille de ces machines, voir jusqu'à quelle taille on va pouvoir maîtriser la superposition quantique et l'intrication, et éventuellement comprendre si l'on peut corriger les erreurs des systèmes physiques imparfaits. La dernière catégorie, c'est les communications quantiques, où on va utiliser la superposition et l'intrication pour échanger des clés de cryptées, par exemple, réaliser des réseaux de communication sécurisés, par exemple pour connecter l'utilisateur à son capteur quantique qui pourra avoir été utilisé pour mesurer des quantités stratégiques, par exemple dans des modèles, dans des domaines militaires, par exemple, ou encore l'utilisateur des ordinateurs qui mènera sur des machines de calcul quantique des calculs très complexes avec des valeurs ajoutées importantes et qui voudra garder ce calcul confidentiel. Alors, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde l'ensemble de ces technologies quantiques qui sont développées et qu'on essaye d'avoir une vision un peu vue de loin des concepts que nous manipulons, en fait, on peut extraire simplement deux systèmes modèles qui nous permettent de décrire un grand nombre de systèmes physiques que nous développons. Le premier système modèle, c'est le spin ennemi, le spin intrinsèque de l'électron, le formalisme du spin ennemi et la façon dont on peut manipuler le spin ennemi avec un champ magnétique va nous permettre de décrire ce qu'on appelle des bits d'information stationnaires. C'est l'information encodée sur un électron, sur un atome, sur un circuit supraconducteur, etc. Et donc ce formalisme qu'on va voir aujourd'hui dans le premier cours va nous permettre en fait d'introduire simplement des petits outils de base qui nous permettent de décrire un grand nombre de qubits stationnaires. Et puis le deuxième système modèle qu'il suffit d'introduire pour décrire un grand nombre de technologies quantiques, c'est celui qu'on décrit dans le formalisme de la seconde quantification, qu'on peut finalement ramener en première approximation à un formalisme d'oscillateur harmonique et qui nous permet de décrire les photons, les états quantiques de la lumière ou les états quantiques d'autres types d'ondes comme des ondes acoustiques, des vibrations qu'on va utiliser et qu'on va explorer ensemble dans la suite des cours. Et c'est ce qu'on appelle, dans le domaine de l'information quantique, des qubits volants. C'est des qubits qui vont pouvoir porter l'information et la propager d'un point à un autre. Ce qui m'amène à la construction du programme de cours que nous allons suivre pendant les 8 semaines. Les 3 premiers cours vont permettre de planter le décor sur ces formalismes. Premier cours aujourd'hui, je vais revenir sur le formalisme du spin ennemi, présenter ce formalisme et illustrer aussi comment on fabrique des vrais bits quantiques d'information encodés sur le spin d'un seul électron. Et nous aurons une illustration ensuite par Jean-François Roch de l'utilisation de ce type de spin unique pour faire des capteurs quantiques particuliers à base de matériaux de centres colorés dans le diamant. La semaine prochaine, nous ferons le deuxième système modèle qui est l'encodage, la description de la lumière au point de vue quantique et comment encoder l'information sur la lumière, à la fois soit en utilisant des photons, soit en utilisant vraiment la nature ondulatoire de la lumière pour encoder l'information. Et nous aurons un exposé de Valentina Parigi qui nous présentera ses travaux sur l'exploitation de la lumière quantique pour développer des réseaux quantiques avec un encodage justement particulier de la lumière qui est complémentaire de celui que j'aborderai principalement dans la suite de mon cours. Il manque une lettre ici. Le troisième cours, c'est une introduction à la décohérence. Ce sont les phénomènes qui fragilisent la superposition et l'intrication. J'essaierai de vous en donner une introduction qualitative, comprendre quels sont les phénomènes qui conduisent à la décohérence. Et ensuite, nous aurons un exposé de Mété Atatürk qui a développé tout un tas de techniques pour réduire très fortement cette décohérence dans des ensembles de spins, dans des systèmes à l'état solide. Les cinq cours qui suivront, nous aborderons des systèmes, des plateformes de technologie quantique particulières. Donc, cours 4 et cours 5, ce seront des cours dédiés à l'utilisation et à la génération de photons uniques pour les technologies quantiques optiques. Donc, cours 4, génération de photons uniques et de photons intriqués. Nous verrons comment l'émission de photons uniques se fait de manière naturelle par des systèmes à deux niveaux. Finalement, le spin 1,5, en lui donnant de l'énergie, ce système se formalise, couplé à la lumière, nous permettra de générer des photons uniques. Et nous illustrerons la similarité des phénomènes. Donc moi, je vous parlerai de comment des atomes artificiels émettent des photons. Et Audrey Bienfait vous montrera comment, avec le même formalisme, on peut générer des phonons, donc des quantums d'énergie de vibration, avec des qubits supraconducteurs, donc des atomes artificiels supraconducteurs. Au cours numéro 5, nous aborderons les calculateurs quantiques à base de photons. J'expliquerai l'architecture des premiers ordinateurs quantiques et puis comment nous allons passer à plus grand nombre de qubits et se diriger vers la correction d'erreurs. Pour cela, nous devrons générer des photons, des états de la lumière de plus en plus compliqués, où de nombreux photons sont intriqués. Et Gerhard Rempe viendra nous présenter ses travaux dans ce domaine sur la génération d'un grand nombre de photons intriqués. Le cours numéro 6 sera dédié aux processeurs quantiques à base d'atomes, alors atomes au sens large, atomes neutres et ions, des atomes privés d'un électron. Je donnerai beaucoup de détails sur les processeurs à base d'ions et Antoine Brouwers, qui est un grand spécialiste des processeurs quantiques à base d'atomes de Rydberg, nous viendra ensuite nous expliquer comment il assemble la matière atome par atome et fait de la simulation quantique avec. Le cours numéro 7 abordera la thématique des vibrations dans le cadre des technologies quantiques. Les vibrations peuvent être vues à la fois comme un défi, quelque chose qui va détruire la cohérence, mais également, si on commence à bien les maîtriser, peuvent devenir un vecteur pour explorer encore plus loin la mécanique quantique et même transporter l'information quantique. Et nous aurons le professeur Marcus Alspelmayr qui nous expliquera ses travaux sur la limite quantique de la gravité à partir de ces systèmes optomécaniques qu'il étudie. Et le dernier cours fera de manière assez naturelle le lien entre les qubits stationnaires, ceux qui ne bougent pas, qui encodent l'information de manière locale, et les qubits volants, ce qu'on appelle des interfaces, qui sont la brique de base pour commencer à construire des réseaux de communication quantique ou des réseaux simplement d'échange d'informations quantiques. Voilà. J'ai fini donc du coup sur la présentation globale du cours, et donc j'arrive au cœur du sujet de notre première leçon, qui va être le passage du spin 1,5 au bit d'information quantique. Et donc, je vais d'abord revenir sur cet objet qui est le spin 1,5, qui a été, en fait, d'un point de vue historique, mis pour la première fois en évidence par deux chercheurs, Stern et Gerlach, dans les années 1920. Ces deux chercheurs avaient pris une source d'atomes d'argent, des atomes neutres, et les envoyer, ce jet d'atomes d'argent, dans une structure où vous avez ici un aimant qui est symbolisé, qui appliquait un champ magnétique selon Z, et regardait la propagation de ces faisceaux d'argent dans cet appareil expérimental. Alors à l'époque, au début du XXe siècle, la vision que les chercheurs avaient d'une telle expérience, c'était la suivante. C'était l'idée que les électrons orbitaient autour des noyaux, et en orbitant autour des noyaux, un électron, c'est une charge moins qui orbite autour d'un proton. Finalement, c'est un petit courant qui se promène sur une spire, et ce petit courant va donner lieu à un petit moment magnétique. Donc un petit moment magnétique sur une boucle de courant, c'est proportionnel à l'intensité du courant, la surface définie par la spire, et donne un moment magnétique qui est perpendiculaire à cette surface. Avec un modèle très simple d'orbite planaire de l'électron autour d'un noyau, on donc peut relier le moment magnétique au moment cinétique orbital, R vectoriel P, de l'électron au cours du noyau, et finalement relier ce moment magnétique à un moment cinétique orbital. Et ensuite, on peut appliquer une des lois de la mécanique classique qui relie la dérivée par rapport au temps du moment cinétique orbital au moment des forces exercées. La force exercée, c'est la force magnétique. Le moment magnétique vectoriel, le champ magnétique. Et comme ce moment magnétique n'est simplement proportionnel au moment cinétique orbital, on obtient une équation très simple sur le moment cinétique orbital, qu'on obtient ici avec un champ magnétique selon Z. Donc selon Z, la composante selon Z du moment cinétique va être constante au cours du temps. Et les deux autres vont simplement décrire un mouvement oscillatoire dans le plan. Et donc finalement, on a ici ce qu'on appelle la précession de l'Armor classique. On imagine un petit mouvement magnétique qui va orbiter autour du champ magnétique comme cela. Et donc, Stern-Eger Large, quand ils lancent leurs atomes dans leur appareil, ils analysent l'expérience en se disant que les petits mouvements magnétiques des atomes d'argent vont précesser autour du champ magnétique selon Z. Et comme on va avoir une propagation sur une longue durée, on va avoir une moyenne dans le temps en fait, de toutes ces précessions, et cet effet-là va en gros s'annuler. Ce qui restera, ça va être en fait un effet de l'inhomogénéité du champ magnétique qui va en fait déplacer, créer une force selon Z et déplacer les atomes verticalement. Et donc ils s'attendent à avoir une certaine forme continue d'étalement du faisceau d'atomes d'argent dans le plan à la sortie où ils vont enregistrer l'impact des atomes d'argent. Et ce qu'ils observent, eh bien, ce n'est pas quelque chose de continu, mais c'est en fait... alors bien sûr, il y a des détails et c'est un peu plus compliqué que ça, mais essentiellement deux tâches. Et à la suite de cette observation, la conclusion qui vient naturellement, c'est puisque tout était pensé en termes de quantification du moment cinétique, du moment magnétique lié à un moment cinétique orbital, que le fait d'avoir non pas quelque chose de continu, mais deux tâches, c'était la signature d'avoir une quantification du moment cinétique orbital, exactement la quantification que Bohr avait proposé pour donner un modèle de l'atome d'hydrogène. C'est très rapidement après qu'en fait, une analyse un peu plus approfondie de la situation montre qu'en fait, ce n'est pas ça que montre cette expérience. En fait, elle révèle un moment magnétique, oui, mais non pas un moment magnétique lié au moment cinétique orbital, mais un moment magnétique intrinsèque, le moment magnétique intrinsèque de l'électron, qu'on appelle maintenant le spin, qui va prendre simplement deux valeurs mises en évidence par cette expérience. La projection de ce moment magnétique ne prendra que deux valeurs liées au spin de l'électron qui va valoir deux valeurs, soit plus h bar sur 2, soit moins h bar sur 2. Et c'est ainsi que progressivement, les physiciens introduisent cette notion de moment cinétique intrinsèque et puis les opérateurs moment cinétique qui sont des opérateurs qui décrivent les opérateurs moment cinétiques sont définis par le fait qu'ils obéissent à des relations de commutation très particulières qui sont écrites ici. La commutation de l'opérateur Sx avec Sy n'est pas nulle, mais vaut IH bar Sz. Et on a en fait, par permutation circulaire, des relations de commutation entre les trois observables de ces opérateurs moment cinétiques que l'on retrouve, si l'on veut les vérifier, simplement sur un moment cinétique orbital. Un moment cinétique orbital et qu'on regarde les relations de commutation d'un moment cinétique orbital obéissent aussi à ces règles de commutation. Le cas particulier du spin de l'électron, ce spin intrinsèque, eh bien c'est un moment cinétique intrinsèque qui vaut h bar sur 2 et qui s'écrit en fonction proportionnellement aux matrices de Pauli, qui sont des matrices qu'on voit souvent en mécanique quantique pour justement décrire tous les phénomènes liés au spin 1,5 et que nous allons utiliser abondamment dans le traitement de la formation quantique. Ces spins, ces matrices de Pauli, qui sont donc la matrice selon Z, diagonale 1-1, qui correspond aux valeurs propres selon Z, plus ou moins h bar sur 2, si je m'intéresse donc aux états propres selon Z, et puis deux autres matrices de Pauli qui correspondent aux deux autres composantes du moment cinétique. Et donc on peut regarder ici, se rappeler ici, des états propres d'un moment cinétique intrinsèque de type 1,5, donc avec les vecteurs propres selon la direction X, donc on a la direction qu'on a choisie pour écrire notre matrice qui est la direction Z, et puis à partir de là, on va définir une direction X et une direction Y, et on obtient des états propres qui sont simplement des combinaisons linéaires, des états plus et moins Z. Sigma X est à deux états propres, plus ou moins X, qui sont plus Z, plus ou moins Z sur racine de 2, et de la même façon, sigma Y a deux états propres qui sont plus ou moins Y, qui sont des combinaisons linéaires de plus z, plus ou moins i, moins z sur racine de 2. Alors revenons d'un point de vue expérimental à l'expérience de Stern-Eger Large. Faisons l'hypothèse que nous avons mis un système dans une superposition de état plus z et moins z, alpha plus z plus bêta moins z. Et je mets maintenant mon système, je l'envoie dans un appareil de Stern-Eger Large orienté selon Z. Donc je vais déplacer mes deux spins et séparer les tâches qui correspondent à plus Z et moins Z. Je mets ici un petit cache pour ne garder que les états mesurés dans l'état plus Z. Donc j'ai une probabilité alpha carré de mesurer mon système dans l'état plus z, cette probabilité alpha carré va donner l'intensité de mes deux tâches, plus z et moins z, ici. Hein, si j'ai un coefficient alpha beaucoup plus grand que bêta, je vais avoir une tension beaucoup plus intense ici en plus z qu'en moins z. Et maintenant, je mets un cache sur la partie moins z, je ne garde que les états plus z, et je mets un autre appareil de Sternberger large que j'ai retourné pour mesurer cette fois-ci, séparer mes faisceaux et mesurer cette fois-ci ce qui se passe dans l'autre direction, la direction x. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que comme plus z, c'est en fait une superposition quantique de plus et moins x, eh bien, à la sortie de mon deuxième appareil de Sternberger large, je vais à nouveau avoir apparaître deux tâches. Si je rajoute maintenant un troisième appareil de Sternberger large, donc je suis parti d'un état ici après mon premier appareil qui était en plus z, je l'ai fait passer par un plus i et par un Sternberger large en x, je garde seulement la tâche qui correspond à, par exemple, moins x, je remets un troisième appareil de Sternberger large, et comme moins x, c'est une superposition de plus et moins z, je vais à nouveau avoir deux tâches. Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, il se passe qu'en rajoutant ici, dans mon troisième schéma expérimental, en rajoutant une mesure selon x, j'ai perdu toute la formation que j'avais obtenue à la fin de mon premier appareil de Sternberger large sur mon état quantique. Parce que si j'enlève ici la mesure selon x et que je mets l'un après l'autre deux appareils de Sternberger large second z et que je garde simplement la tâche plus z ici, donc j'ai mesuré mon spin dans l'état plus z, après mon deuxième appareil de Sternberger large, je serai sûr de retrouver mon système dans l'état plus z. Alors, ce que nous voyons ici à l'œuvre, c'est quelque chose de très fondamental, hein, qui est le fait que quand deux quantités, deux mesures donnent des résultats différents quand on change l'ordre, eh bien, en fait, on a perturbé la formation que l'on peut récupérer sur les états quantiques. Et donc, je vais revenir un petit peu après sur le formalisme qui sous-tend ces observations qui sont... je ne prends pas le temps de faire les calculs, hein, qui sont finalement assez simples. Hein, on part simplement des états que j'ai écrits ici. À chaque fois qu'on a une superposition quantique, j'ai une probabilité, quand j'ai cette superposition quantique ici de l'état plus x, j'ai une probabilité 1/1000 de mesurer plus z et 1/1000 de mesurer moins z. C'est ce que fait mon appareil de Sternberger large. Et je fais ça de manière successive plusieurs fois. Eh bien, cette observation que si je mesure une fois selon z, puis x, puis z, je vais avoir un résultat différent que si je mesure deux fois selon z et puis ensuite selon x, c'est finalement une première propriété de la mécanique quantique qui est exploitée dans une des premières applications les plus simples à raconter, qui est l'échange de clés cryptographiques. Donc je vais prendre juste ces idées simples que nous avons vues là, juste ensemble, et vous montrer comment à partir de là, les chercheurs, et en particulier Bennett et Brassard, lors de ce papier emblématique qui date de 1984, ont proposé une façon, en utilisant ces propriétés, d'échanger l'information de manière sécurisée. Quel est le protocole? L'idée, c'est d'échanger de l'information, alors une succession de 0 et de 1, une clé d'encryptage, entre deux personnages qu'on appelle toujours Alice et Bob, et on imagine qu'il pourrait y avoir au milieu un espion, Eve, qui pourrait prélever de l'information. Avec ce que je vous ai expliqué, je vais illustrer le protocole en prenant donc, du côté d'Alice. Alice dispose d'une source de spin unique qu'elle envoie à Bob et elle va encoder l'information sur le spin de ses particules uniques, de ses électrons par exemple. Alors, bien sûr, on ne fera pas ça avec des électrons, on fera plutôt ça avec des photons, mais d'un point de vue du formalisme, c'est la même chose. Alice va encoder l'information. Elle va choisir soit la base selon z, donc regarder la projection du spin selon z, plus z ou moins z, et elle va dire que si elle mesure le spin selon... Si le système est dans l'état quantique plus z, elle appellera ça le bit d'information 0. Si le spin est dans l'état moins z, ce sera le bit d'information 1. Mais elle va aussi pouvoir choisir une autre base. En fait, ce choix de la direction est complètement arbitraire. Hein. C'est moi qui décide de décider quel est l'axe z. Je peux changer de direction et décider d'encoder l'information en prenant plutôt la mesure selon x et moins x, et donc dire que si c'est l'état plus x, je vais avoir le bit d'information 0, ou l'état moins x, le bit d'information 1. En se rappelant toujours que, bien sûr, je sais passer mathématiquement de ce que c'est qu'un état plus x par rapport aux états plus et moins z. Et le protocole va ressembler à ça. On va avoir d'un côté Alice, qui veut simplement échanger une clé encryptée aléatoire, et donc qui va choisir des bits aléatoires de 0 et de 1. Donc là, elle a une première machine qui génère des 0 et des 1 de manière aléatoire. Ça, c'est une machine classique. Elle va ensuite choisir, de la même façon, en jetant un dé, la base qu'elle va utiliser pour encoder l'information. Et donc, si elle choisit d'encoder le bit 0 dans la base, qui est en fait la base diagonale, qui est x, ça veut dire qu'elle va envoyer l'état plus x ici. Par contre, si elle tombe sur, si elle veut envoyer le bit aléatoire 1 dans la base z, elle va envoyer ici cet état horizontal représenté par la flèche bleue ici, et ainsi de suite. Elle envoie ses spins, et de l'autre côté, nous avons Bob, qui lui aussi va pouvoir mesurer ses spins. Alors, à chaque fois que je fais une mesure, il faut imaginer un appareil de Sternegarla. Hein. On met un appareil, puis on va le mettre selon Z ou selon X. Bob va décider de mesurer de manière aléatoire aussi, selon les deux bases, soit Z, soit X. Et que va-t-il se passer? Eh bien, prenons la troisième ligne, par exemple, ici, où Alice a encodé le bit d'information 1 dans la base X. Donc cette flèche jaune ici. Que va-t-il se passer? Donc, c'est-à-dire qu'elle a pris un appareil de Sternegarla-Lasch et prélevé la tâche qui correspondait à l'état jaune ici. Eh bien, Bob, quand il va mesurer, il va aussi prendre un appareil de Sternegarla-Lasch qui va être orienté dans la même façon. Et comme il est déjà selon la direction de quantification, eh bien, il va mesurer effectivement le même état qu'Alice. Par contre, quand Alice et Bob vont prendre des bases différentes, eh bien, c'est Alice envoie par exemple ici, alors je ne me rappelle plus, excusez-moi, si c'est, voilà, ça c'est un moins z. Si ça, il envoie un état moins z, eh bien, en fait, en mesurant dans les bases x, y, c'est comme si on prenait la tâche moins z à la sortie du premier Sternegarla-Lasch et qu'on mesurait selon x, et on va avoir à nouveau deux tâches. Donc, Bob va trouver de manière aléatoire une chance sur deux, soit plus x, soit moins x. Et donc va obtenir un bit d'information qui sera une fois sur deux le bon, mais une fois sur deux pas le bon. Que vont faire ensuite Alice et Bob? Eh bien, ils vont se dire quelle base ils ont utilisée. Ça, c'est une information qu'ils peuvent partager de manière publique, ce qui va leur permettre d'enlever toutes les situations où ils n'ont pas mesuré dans la même base. Et là, on pourrait se dire, eh bien, ils ont partagé, simplement, on ne sait pas si c'était 0 ou 1, mais ils ont simplement échangé les bases et ils ont échangé une succession de 0 et de 1. Alors là où vient la sécurité quantique, c'est si on imagine que Eve, un espion, vient s'installer au milieu de cette ligne de transmission et intercepte par exemple ce qubit qui était le qubit 0, je crois, dans la base X. Et Eve, elle essaye de récupérer l'information, donc elle va faire une mesure. Mais elle ne sait pas si elle doit faire la mesure selon Z ou selon X, donc elle fait la mesure par exemple selon Z. Si elle fait sur la mesure selon z, elle va tomber une fois sur deux sur plus z ou moins z, puisqu'elle a un état x. Et donc, elle va se dire, ah, j'ai mesuré plus z. Pour ne pas être détectée, elle va renvoyer plus z. Et donc, cette fois-ci, Bob, qui recevra plus z, mais mesurera avec la même base qu'Alice, le qubit d'Alice, aura cette fois-ci à nouveau un résultat aléatoire, puisqu'il part de plus z. Et donc, il pourra avoir plus ou moins x. Et là, on va faire apparaître une erreur qui est induite par Eve, et qu'on va pouvoir identifier parce que la mesure de Eve, ici, en rajoutant, c'est tout à fait l'analogue de je mets l'appareil de Sternegarla-Lasch selon X entre deux appareils de Sternegarla-Lasch selon Z, la mesure de Eve efface toute information qu'on avait sur le qubit. Et donc le protocole ressemble à ça. Alice va générer une créée aléatoire, va dire je veux encoder toutes ces successions de 0 ou de 1, va choisir une base aléatoire, soit la base verticale, soit la base diagonale. Ça va donner des états codés qu'Alice envoie. Bob va ensuite choisir sa base de manière aléatoire. J'ai indiqué en jaune toutes les fois où il n'a pas choisi la même base qu'Alice, donc on va enlever ces qubits-là. Et puis, c'est ce qu'on a ici, la clé filtrée, où j'ai enlevé toutes les situations où Alice et Bob n'avaient pas reçu la même information. Et puis, il va rester des erreurs. Des erreurs, ici, que j'ai mis en bleu, qui peuvent venir, par exemple, du fait que Eve a intercepté le signal et a espionné la ligne de communication. Et donc, ce que vont faire Alice et Bob à ce stade-là, c'est qu'ils vont prélever un petit bout de cet échange d'informations, une petite fraction de la clé, pour estimer le nombre d'erreurs. Et ils vont calculer quel est le taux d'erreur qui est acceptable dans leur système physique et définir un seuil au-delà duquel ils vont dire « non, là, c'est sûr, on a été espionné ». Et ainsi, et à l'inverse, si le taux d'erreur est très faible par rapport à ce que serait la présence, ce qu'indiquerait la présence d'un espion, eh bien, ils auront à la fin partagé une clé cryptographique ensemble avec les autres qubits qu'ils ne nous ont pas révélés. Voilà, alors je vous ai ici présenté le protocole qu'on appelle BB84, BB pour Bennett et Brassard, qui a été proposé en 1984, qui est bien sûr, je vous ai présenté le principe, qui est une bonne introduction à cet objet particulier qui est le spin and me, qui vous montre que quand je mesure le spin selon Z et selon X, en fait, on a des mesures qui ne commutent pas. Et en fait, ce qu'on est en train d'exploiter quand on utilise la cryptographie, quand on met en œuvre cette cryptographie quantique, c'est cette propriété très fondamentale de la mécanique quantique qui est la non-commutation des observables. Tout repose sur le fait qu'un opérateur de spin vérifie ses relations de communication, de commutation, et ce qu'on appelle le principe fondamental de la relation d'incertitude d'Heisenberg, qui vous dit que quand vous faites un très grand nombre de mesures sur deux observables qui ne commutent pas, et que vous regardez la déviation standard de vos mesures, et bien en fait, qui vous donne en fait la précision avec laquelle vous faites votre mesure, et bien en fait, le produit des deux delta A delta B va être borné par la valeur moyenne de ce commutateur qui, dans le cas du spin, n'est pas nul. Et donc, de manière assez générale, on va pouvoir, en mécanique quantique, utiliser cette astuce de mesure qui ne commute pas, c'est-à-dire je fais une mesure dans un sens et dans l'autre et je n'obtiens pas le même résultat, pour sécuriser des échanges d'informations. L'exemple le plus simple que je vous ai donné là, c'est BB84, mais il y a tout un tas d'exemples qui sont maintenant développés pour faire ce qu'on appelle du calcul quantique sécurisé, on appelle en anglais blind quantum computing, utiliser ces astuces de mesure qui ne commutent pas pour être capable de rendre le calcul secret. Même au serveur qui donnera accès à la machine de calcul, il ne pourra pas connaître le calcul qu'un client pourra faire sur sa machine. Alors bien sûr, on ne fait pas des échanges de clés cryptographiques avec des spins 1,5 électroniques, on a plutôt tendance à utiliser de la lumière, on va utiliser plutôt des photons, on va encoder l'information des photons uniques par exemple dans la polarisation, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais en fait on va se retrouver dans la même façon, on va prendre des bases de mesures qui sont non orthogonales, qui font que si je prends horizontale, verticale et puis diagonale, antidiagonale, par exemple pour la polarisation, j'aurai exactement les mêmes propriétés que je viens de vous présenter avec les opérateurs de spin. On pourra faire ça aussi en encodant les états avec la fréquence ou le chemin des photons, etc. etc. Alors, j'ai abordé ici de manière très succincte et très rapide l'échange de clés cryptographiques. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez vous référer à cet article de revue qui a été publié dans la revue Photonique, qui est une revue qui est pilotée par la Société française d'optique et des industriels, et qui permet d'accéder à la vulgarisation de très bon niveau. Et il y a eu tout un dossier cette année sur les communications quantiques. Vous avez notamment des illustrations d'expériences réalisées dans des réseaux quantiques en France, dans le sud de la France, dans la région de Nice, sur un réseau qui fait entre 20 et 30 km, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Et vous voyez ici des exemples justement de protocoles réalisés avec Alice et Bob et un certain nombre de protocoles utilisant soit la superposition quantique, soit l'intrication. D'un point de vue international, sur la communication et l'échange de clés cryptographiques, la publication récente en 2025 par un consortium de chercheurs chinois est absolument impressionnante. Donc j'ai ici souligné en jaune les chiffres. On parle de 4 réseaux métropolitains reliés sur 10 000 km qui comprennent 145 centres fibre optique, des réseaux métropolitains qui couvrent 80 villes et qui sont toutes connectées à ce fameux satellite de communication quantique que la Chine a lancé dans l'espace en 2016 et a commencé à utiliser pour faire des protocoles d'échange de clés cryptographiques dès 2017. Donc ça, c'est vraiment l'état de l'art international. L'Europe et les États-Unis, et l'Amérique du Nord développent également leur réseau de communication quantique avec des protocoles qui exploitent tous cette non-commutation des observables, soit avec des particules simples, soit avec des photons intriqués, comme nous venons de l'illustrer. Alors, en ayant vu ça, je vais maintenant glisser gentiment du spin 1,5 au bit d'information quantique. Finalement, nous avons déjà franchi le pas entre le support physique de l'information et dans le cas que j'ai illustré, qui était un spin 1,5, qui est un système quantique que je vais pouvoir mettre dans une superposition d'état alpha moins z plus bêta plus z, avec toujours ces règles de normalisation. D'un point de vue de l'information, et nous venons de le faire dans l'exemple d'échange de clés cryptographiques, je passe au bit d'information quantique en décrétant que 0 c'est l'état moins z et que 1 c'est l'état plus z, et voilà, j'ai créé un bit d'information quantique. Quand je fais une mesure, nous l'avons illustré plusieurs fois ici, quand je fais une mesure sur un état comme ça, si je mesure selon z et que je regarde quelle est la probabilité que je mesure le système dans l'état moins z, et bien je vais trouver l'état moins z dans une probabilité, avec une probabilité alpha carré, et à la sortie de ma mesure, mon système, mon spin sera dans l'état moins z. Pareil avec la probabilité bêta carré d'être dans l'état plus z. D'un point de vue de l'information quantique, la mesure joue beaucoup de rôles, mais je peux par exemple décider ici, c'est une façon d'initialiser mon qubit. Je peux faire une mesure de mon qubit, et quand je le mesure dans l'état plus ou moins z, je peux dire j'ai initialisé mon spin dans l'état 0 ou dans l'état 1. Mon qubit, pardon, dans l'état 0 ou dans l'état 1. Maintenant, pour être capable vraiment de manipuler l'information quantique, eh bien, je vais vouloir mettre mon système physique que j'ai initialisé dans un des états de spin, c'est-à-dire mon qubit dans un des deux états 0 ou 1, je vais vouloir l'emmener n'importe où, dans cette n'importe quelle superposition alpha 0 plus bêta 1. Et là, ce qui nous manque maintenant, c'est le contrôle. Un système qui nous permette de passer de mettre notre système qui est dans l'état 0 dans une superposition alpha 0 plus bêta 1. Et là, je vais revenir dans le domaine physique pour vous décrire comment nous faisons ça, toujours avec l'exemple du spin 1,5 soumis à un champ magnétique. Alors avant de me lancer dans cette description de la manipulation d'un spin avec un champ magnétique, je vais d'abord introduire un objet mathématique qu'on utilise beaucoup dans le traitement de l'information quantique, qui est le vecteur de Bloch. Alors je repars ici de mon état quantique, alpha moins z plus bêta plus z. J'ai bien dit que alpha carré plus bêta carré en module est égal à 1, ce qui définit en fait mes paramètres sur une sphère. Or, je sais bien décrire la surface d'une sphère en coordonnées sphériques avec un vecteur unitaire qui aura pour coordonnées sinus θ, cos θ, sinus θ, sinus. Sinus θ, cos φ, sinus θ, sinus φ ou cos θ selon z. Et donc, on va introduire ce vecteur de Bloch et on peut montrer que si j'introduis ce vecteur de Bloch qui encode avec θ et φ toute la surface de la sphère, eh bien, mon qubit, en fait, je peux simplement le réécrire sous la forme cos θ carré moins z plus ei φ sinus θ sur 2. Et je peux montrer, c'est très simple, que la valeur moyenne de l'opérateur spin sur cet état psi, eh bien, ce n'est rien d'autre que h bar sur 2, le vecteur de Bloch. Alors, je vais juste le montrer pour une composante. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit que si je regarde la valeur moyenne, alors je l'ai écrit de manière vectorielle, mais je vais le faire composante par composante. Si je prends la valeur moyenne de mon opérateur spin selon z sur mon état psi, donc ça veut dire je prends mon opérateur sz, je l'applique à mon état psi, et ensuite je fais le produit scalaire avec mon ket psi. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est simplement, alors sz, on se rappelle que je peux l'écrire sous cette forme-là, c'est simplement h bar sur 2, la matrice de Pauli sigma z. Et donc cet état-là, c'est simplement, je vais rester, donc c'est sz appliqué à cos θ sur 2 moins plus ei φ plus sz ei φ sinus θ sur 2 plus z. Et donc sz appliqué à moins z, ça fait moins h bar sur 2, le même état, puisque moins z est un état propre. Et puis sz appliqué à plus z, eh bien ça fait plus h bar sur 2. Donc ça, c'est cet état-là. Et moi, je veux juste calculer la valeur moyenne de sz, qui est en fait psi scalaire cet état-là. Qu'est-ce que ça me donne? Psi, c'est cos θ sur 2 moins z, donc ça va me faire un cos carré θ sur 2. Alors, je vais sortir le h bar sur 2. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'impression que j'ai fait une erreur de signe. Donc, je trouve un cos carré θ sur 2. J'ai un moins cos carré θ sur 2 plus sinus carré θ sur 2. Et là, je me retrouve avec, ça, c'est moins h bar sur 2 cos θ. Donc, j'ai fait une erreur de signe. Si quelqu'un voit où j'ai fait mon erreur de signe. Et ça, c'est ce que j'ai appelé h bar sur 2 rz à un signe près. Donc j'ai dû faire une erreur de signe quelque part, je la vois pas. Non, là j'ai pas appliqué. Là j'ai mis SZ, là j'applique SZ à mon vecteur. Bon, j'ai dû faire une erreur, c'est juste que j'ai dû écrire ma matrice de Pauli dans la 2. Ah. L'écran s'est mis en veille. Excusez-moi. Bon, je vais passer. J'ai dû écrire, je vérifierai, je mettrai mes slides au propre. J'ai dû faire une erreur de signe ici, je le corrigerai après. Et donc on peut montrer, alors évidemment sans erreur de signe, que la valeur moyenne de l'état SZ sur l'état psi, en fait, est simplement donnée par ce vecteur R qui est le vecteur de bloc que je peux représenter sur cette sphère de bloc avec juste deux paramètres, θ et φ. Alors pourquoi ça m'aide ? Alors d'abord, ça me permet de visualiser des états quantiques particuliers sur cette sphère de bloc. On peut en particulier, par exemple, l'état moins Z ici, que j'ai écrit en rouge, eh bien, en fait, il correspond à θ égale π, puisque θ égale π, ça me fait un moins Z ici, l'état moins Z là et 0 là. L'état ici, qui est sur cette partie-là de la sphère de bloc, qui intercepte la sphère de bloc avec l'axe X, c'est l'état plus X qui correspond à θ égale π sur 2 et φ égale 0. Et puis de la même façon, on va avoir l'état plus Y qui est ici sur la sphère de bloc qui correspond à θ égale π sur 2 et φ égale π sur 2. Et donc je peux ainsi utiliser cette sphère pour représenter mon état quantique. Bon, j'ai déjà vérifié trois fois, j'ai dû me tromper deux fois, donc c'est typiquement le genre de choses que je fais, inverser des signes, je fais ça très souvent, ça ne change pas l'histoire. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on utilise ce vecteur de bloc pour représenter les états plus, y et z, et représenter ainsi l'état de notre spin, et éventuellement, si on veut le voir évoluer dans le temps, regarder sa trajectoire au cours du temps, dans la sphère de bloc ou sur la sphère de bloc. Alors maintenant, comment je peux manipuler ce spin ? Eh bien, on va revenir un peu à cette idée que j'avais présentée au début de la précession de Larmor, mais on va passer dans un modèle de précession de Larmor qui s'applique au système de spin quantique, qui va être également l'interaction de ce petit moment magnétique intrinsèque qui est le spin avec un champ magnétique. Je vais partir à t égale 0, je vais faire l'hypothèse que mon spin est dans l'état moins, alors il manque le z là, dans l'état moins z, avec un vecteur de bloc qui correspond donc à 0, 0, moins 1, qui pointe vers le bas. Et je fais interagir mon spin avec un champ magnétique que je vais orienter selon x. Donc je vais avoir vraiment ma sphère de bloc comme ça, mon spin qui pointe vers le bas, et je vais mettre un champ magnétique ici qui est parallèle au champ x. Comment on va pouvoir traiter ça ? Alors il y a un théorème très simple qu'on apprend assez tôt dans les cours de mécanique quantique, qui est le théorème d'Ehrenfest, qui nous donne la variation temporelle de la valeur moyenne d'une observable. Quand je fais une mesure sur une observable A, sur un état psi donné, eh bien son évolution temporelle est donnée par 1 sur IH bar, la valeur moyenne du commutateur entre cet observable et l'hamiltonien qui décrit le système. Et puis sur l'observable elle-même dépend du temps, on a en plus un terme qui est la dérivée partielle de l'observable et la valeur moyenne de cet observable. Alors on peut l'appliquer ici de manière très simple. Je veux décrire mon système quantique. J'ai dit que le vecteur de bloc, en fait, c'est la valeur moyenne de l'opérateur de spin dans les trois directions de l'espace. Donc en fait, ce que je veux calculer pour connaître mon état de spin, c'est les variations temporelles du vecteur de bloc. Et donc, ce vecteur de bloc, comme il est relié à la valeur moyenne de l'opérateur spin, je vais simplement calculer la valeur moyenne, la dérivée par rapport au temps, de la composante, de la valeur moyenne du spin selon x. Et donc ici, j'applique cette formule-là, d sur dt appliqué à sx, j'écris simplement, avec le théorème d'Ehrenfest, que d sur dt appliqué à sx, valeur moyenne de sx, eh bien, ça va être oméga 1 sur ih bar, et puis la valeur moyenne du commutateur entre sx et sx, parce que mon champ magnétique, il est selon x. Et donc là, je trouve que, bien sûr, je tombe sur le fait que la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de sx est égale à 0. C'est exactement comme la précession de Larmor classique, hein, la composante parallèle au champ magnétique restait constante et ça précessait autour. Et je continue ces équations et je regarde la variation temporelle du vecteur de Bloch selon Y et selon Z. J'applique de la même façon. Cette fois-ci, je vais avoir un SY SX qui va apparaître. Donc ça va me faire apparaître un terme en SZ qui est proportionnel à RZ, le vecteur de Bloch. Et symétriquement, quand je vais calculer la dérivée par rapport au temps de RZ, je vais avoir une dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de SZ et qui va donner lieu au commutateur SZ-SX qui, lui, est proportionnel à SY et donc proportionnel au vecteur de Bloch selon Y. On arrive à un jeu d'équations très simple qui est parfaitement analogue et c'est normal aux équations de la précession de l'Armor classique qui nous disent que si je mets mon champ magnétique ici indiqué en bleu selon la direction X, que je mets mon spin dans l'état moins ici, à t égale 0, eh bien, au cours du temps, il va précesser dans le plan XY. Alors, on peut se dire qu'on a déjà atteint un objectif important, être capable de varier le poids entre plus Z et moins Z, l'amplitude de alpha et bêta de mes coefficients de mon qubit. Mais je suis seulement dans le plan, dans un plan de la sphère de Bloch. Manipuler mon qubit, c'est l'emmener dans n'importe quel point de la sphère de Bloch. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser simplement un champ magnétique. On pourrait penser que je remets un dans une autre direction, mais ça va rien changer, parce qu'en fait, si je rajoute un autre champ magnétique dans une autre direction, ça va faire un champ moyen dans une troisième direction, et ça sera perpendiculairement à ce champ moyen-là que je précesserai. Donc, il faut faire plus, et en fait, pour manipuler complètement un état de spin, on va finalement aboutir à un formalisme qui va mélanger un champ statique et un champ oscillant, qui est en fait le formalisme qu'on décrit souvent dans les cours de mécanique quantique, qu'on met en place pour décrire la résonance magnétique nucléaire. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un champ magnétique fixe selon Z. Alors, je fais ce que je veux, je décide que c'est selon Z. Et au lieu de mettre un champ magnétique seulement selon X, comme je viens de le faire, je vais mettre un champ oscillant dans le plan XY. Alors j'ai choisi une forme, la forme exacte que l'on prend pour ce champ oscillant va plus ou moins compliquer ou non les équations, donc j'ai pris une forme simple qui donne des équations sympathiques. Et que va-t-il se passer? Eh bien, en fait, si je reviens à mon théorème d'Ehrenfest, que je n'ai pas gardé là, donc je vais revenir en arrière, en fait, ce théorème s'appliquait également si mon Hamiltonien dépendait du temps. Donc en fait, je peux simplement reprendre exactement le même formalisme et finalement comprendre que mon vecteur de Bloch, il va osciller non pas seulement autour d'un champ fixe, mais maintenant autour d'un champ fixe qui est la somme d'un champ fixe et d'un champ oscillant. Donc je le dessine ici. J'ai mon champ fixe ici en violet selon Z. J'ai un champ dans le plan bleu ici qui oscille au fil du temps. Le champ total résultant, c'est un champ comme ceci qui a une composante Z fixe et oscillante dans le plan XY. Et que va-t-il se passer pour mon petit vecteur de Bloch? Eh bien, mon petit vecteur de Bloch, il va précesser au cours du temps autour de ce vecteur qui lui-même bouge au cours du temps. Alors, vous pouvez retrouver les calculs de ce genre de situation dans n'importe quel cours de mécanique quantique. C'est un peu fastidieux. Je ne vais pas le montrer ici. On peut ainsi montrer qu'on peut accéder à tous les points de la sphère de Bloch en combinant ce champ fixe et ce champ fluctuant. Ce que je vais faire, c'est donner une étape essentielle qui permet de comprendre un petit peu comment fonctionne le calcul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on change de référentiel. En fait, ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est qu'il y a un champ qui tourne. Donc, on va se mettre dans le champ tournant. Donc, on va se mettre dans un référentiel tournant. Et en faisant ça, en se mettant dans un référentiel tournant, on va se retrouver avec un vecteur de Bloch qui va évoluer le long d'un champ magnétique fixe. Et on va se retrouver avec la même équation qu'avant, sauf que ça sera le vecteur de Bloch dans le champ tournant, qui va du coup vérifier la même équation qu'avant, donc dr sur dt égale r vectoriel, cette fois-ci un vecteur oméga effectif, qui est, par rapport à tout à l'heure, on avait simplement oméga 1 ex, et bien là on va avoir toujours oméga 1 ex, qui donne la précession selon x, mais on va avoir une modification de l'oscillation selon Z, parce que, alors si je reviens un tout petit peu en arrière, le champ selon Z, en fait, il faisait précesser selon Z proportionnellement à l'intensité du champ selon Z. Et maintenant, je rajoute un champ tournant et je me mets dans le champ tournant qui tourne aussi à une autre fréquence oméga. Donc finalement, ça revient à tourner moins vite selon Z, puisque je me suis mis dans le référentiel tournant. Et donc finalement, le champ effectif selon Z qui reste après ce changement de référentiel, ça va être un champ effectif d'amplitude moindre qui va faire une pulsation, une rotation, à une fréquence plus faible, diminuée par oméga 0, qui était la fréquence nominale selon Z, à laquelle on a réduit le oméga, qui vient du fait que j'ai changé de référentiel. Alors, sans rentrer dans les détails, ce n'est vraiment pas l'objet de ce type de cours, mais on peut montrer, on peut calculer les composantes du vecteur de Bloch si je pars dans l'état moins Z, dans le référentiel tournant. Dans le référentiel tournant, ça, les formules ont des formes acceptables. Et ce qui m'intéresse pour discuter avec vous ensuite du contrôle d'un qubit et de ce qu'on appelle les oscillations de Rabi, ça va être simplement de regarder, je pars de l'état moins Z, quelle est la probabilité au cours du temps que j'arrive dans l'état plus Z? Et est-ce que je peux vraiment arriver dans l'état plus Z, à coup sûr, avec mon système que j'ai mis en place avec mes deux champs magnétiques? Et pour ça, on peut d'abord noter le fait que j'ai fait une rotation selon Z. Donc, en fait, la composante selon Z de mon vecteur de Bloch dans le référentiel tournant ou pas tournant, c'est la même. Et ensuite, la composante selon Z de mon vecteur de Bloch, eh bien, c'est toujours la valeur moyenne selon Z que j'ai calculée ici avec une erreur de calcul, qui est donnée en fait, par la probabilité de trouver le système selon plus Z moins la probabilité de trouver le système dans l'état moins Z. Comme la probabilité de trouver le système dans l'état plus Z plus moins Z, ça je ne l'ai pas écrit, mais la probabilité de trouver mon système dans l'état plus Z plus la probabilité de trouver le système dans l'état moins Z, ça c'est forcément 1, puisqu'il est dans l'un ou l'autre des états, eh bien en fait, on peut simplement relier la composante du vecteur de Bloch à la probabilité de mesurer le système dans l'état plus Z par cette relation-là. Et donc en remplaçant ici la valeur que je vous ai donnée de la composante selon Z du vecteur de Bloch dans le référentiel tournant, qui est la même que celle du vecteur de Bloch dans le référentiel d'origine, j'ai la probabilité d'emmener mon qubit dans l'état plus Z, qui est donné ici. Formule très simple. Alors très simple, qu'on va regarder ensemble. Elle fait apparaître la pulsation de mon champ, qui correspond à l'intensité de mon champ magnétique tournant, et puis cette pulsation, cette nouvelle pulsation de Rabi, qui est la somme des carrés, la racine carrée de cette pulsation, pardon, cette nouvelle pulsation de Rabi, c'est la racine carrée de oméga 1 carré qui est proportionnelle au champ magnétique B1 et delta carré qui est donnée par cette différence de fréquence entre la fréquence de résonance liée au champ selon Z et la fréquence du champ tournant. Que trouve-t-on? Alors, résumons. Nous avons un système qui est dans l'état plus ou moins Z. Avec la présence du champ magnétique selon Z, on a en fait levé la différence, on a deux niveaux d'énergie qui correspondent à plus ou moins H bar sur 2 à oméga 0, où oméga 0 c'est proportionnel au champ magnétique. On applique ce champ et on veut montrer, et on trouve que la probabilité de trouver le système si je pars dans l'état moins Z, d'arriver dans l'état plus, c'est celle-là. Alors regardons par exemple ce qui se passe si je mets delta égale 0. Delta égale 0, ça veut dire que je fais précesser mon champ magnétique tournant à exactement la même pulsation que la pulsation définie par la présence du champ magnétique selon Z, qui définit la différence des niveaux d'énergie entre mon état point Z et plus Z. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, je peux, périodiquement, au cours du temps, emmener mon système de l'état moins Z à l'état plus Z avec une probabilité qui arrive à 1 ici. Si je commence à faire osciller mon champ oscillant à une fréquence plus faible, différente de la fréquence oméga 0 qui donne lieu à mes deux niveaux d'énergie, eh bien, vous voyez que la valeur maximale ici de la probabilité n'atteindra jamais 1. Puisque delta est non nul, et donc je ne pourrais pas emmener mon système dans l'état excité. Et puis plus ma fréquence est éloignée de la fréquence qui définit la différence des niveaux d'énergie entre les deux états, moins je peux emmener mon système dans l'état dans l'autre état. Et donc vous voyez qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de manipuler mon qubit, de l'emmener d'un point à l'autre de la sphère de Bloch, et de l'emmener par exemple du pôle sud au pôle nord de la sphère de Bloch, eh bien il va falloir choisir très précisément le champ magnétique que je vais appliquer à la fois selon Z et la pulsation pour pouvoir emmener mon système de l'état du bas vers l'état du haut. On peut regarder également la dépendance. Si je fixe par exemple, alors ce qu'on va faire typiquement dans ce genre de situation, c'est que si je veux emmener mon système par exemple ici à la moitié de l'oscillation, je vais me retrouver dans une superposition plus Z moins Z sur racine de 2 avec des coefficients qu'il va falloir regarder très précisément en fonction des champs qu'on a appliqués. Si je veux amener mon qubit dans cette superposition d'état ici, je vais par exemple allumer, alors si on y arrivait expérimentalement, c'est ce qu'on ferait, on allumerait notre champ magnétique pendant un certain temps et on s'arrêterait ici et on arrêterait le champ magnétique pour arrêter de faire osciller le qubit. Donc on allume et on éteint un champ magnétique et on peut emmener notre qubit quelque part entre l'état moins Z et l'état plus Z. Si maintenant, donc imaginons que nous faisons ça, hein, donc je vais appliquer au cours du temps mon champ magnétique oscillant, je vais l'allumer pendant une certaine durée de temps qui va m'emmener mon système, par exemple, de l'état moins Z à l'état plus Z plus moins Z sur racine de 2. Je peux expérimentalement choisir la durée de temps que je vais utiliser pour amener mon bit quantique dans cette superposition. Et puis à l'inverse, je peux fixer cette durée où j'allume mon champ magnétique et faire varier l'intensité de ce champ magnétique. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais appliquer mon champ magnétique pendant un instant donné, donc je me mets à un instant delta t donné, et je regarde où je peux emmener mon qubit en variant l'intensité du champ magnétique, oméga 1 est proportionnel à B1 ici. Et donc on voit ici que finalement, ici, à partir du moment où delta n'est pas nul, si je ne suis pas exactement ce qu'on appelle être à la résonance, c'est-à-dire que je mets pas, mon champ n'oscille pas exactement à la fréquence oméga 0, je ne vais pas pouvoir emmener mon qubit dans l'état excité. Enfin, je pourrais le faire qu'à la limite où oméga 1 tend vers l'infini. D'accord ? C'est ce qu'on voit ici sur cette courbe orange. À partir du moment où je ne suis pas exactement à la résonance, c'est-à-dire où mon champ n'oscille pas exactement à une fréquence qui correspond à oméga 0, eh bien, en augmentant oméga 1, je vais de mieux en mieux emmener mon qubit dans l'état plus Z, mais je n'arriverai jamais à l'emmener complètement à cet état-là. Alors, je commande tout ça parce qu'on verra dans les semaines qui viennent comment, et puis juste après, je vais vous donner un exemple, comment on manipule des bits quantiques, des états à deux niveaux, avec la lumière ou avec des champs magnétiques, et ces comportements sont des comportements qu'on voit de manière universelle quand on essaye de manipuler un bit quantique et qu'on réalise ces oscillations où on emmène le qubit alternativement du point O, du pôle nord au pôle sud de la sphère de Bloch, en utilisant divers champs magnétiques ou champs électriques, nous le verrons ensuite. Alors maintenant, je vais prendre un peu de temps pour présenter des réalisations récentes et voir comment, dans la vraie vie, aujourd'hui, dans les laboratoires, on est réellement capable de manipuler un spin unique. Ça se passe, l'exemple que je vais prendre se passe dans les matériaux semi-conducteurs, le matériau semi-conducteur absolument roi, qui est le silicium. Le silicium, c'est cet élément de la table périodique, ici, avec le nombre atomique 14, qui donc a 14 électrons, 14 protons. Il y a plusieurs versions pour le nombre de neutrons, plusieurs isotopes. Et qui, quand on regarde le remplissage des niveaux d'énergie des bandes électroniques, on va avoir 2 électrons sur l'état 1s, 2 électrons sur l'état 2s, 6 électrons sur l'état 2p. Et puis, on va avoir des bandes 3s et 3p incomplètes. On va avoir 2 électrons sur un état 3s et 2 électrons sur l'état 3p. Donc on a ici en fait 4 électrons qui en fait vont mélanger des orbitales s et p pour donner des orbitales hybrides qui font que quand on essaye, alors quand on fait de la cristallographie et qu'on essaye de représenter comment les atomes s'organisent dans des cristaux, eh bien on a cette image de petits noyaux, la boule bleue ici au centre, et puis les tiges vertes, ça va être comment on va assembler cet atome avec les autres atomes qui sont autour. Donc vous voyez ici, grâce à ces 4 orbitales hybrides, finalement, que notre atome de silicium va s'accrocher aux atomes voisins sous la forme de tétraèdre. Et vous voyez ici, en fait, le cristal de silicium qui se forme à partir de ces liaisons chimiques tétraédriques qui donne un réseau d'atomes qui est un réseau qui a une structure vue de loin d'abord cubique. Et puis, en fait, au centre de chaque face du cube, on a un autre atome. Et donc, on a ici une structure qu'on appelle la structure cristallique du silicium. J'ai ici retrouvé des gens qui font des simulations 3D des matériaux qui sont très jolis, que je vous ai montré ici. Alors, on part de ce matériau roi, qui est un matériau dans lequel, quand on calcule les niveaux d'énergie, vous avez des bandes d'énergie permises et interdites pour les électrons, et qui est en fait un matériau isolant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir introduire une impureté dans ce silicium, par exemple une impureté de phosphore. Le phosphore, c'est l'atome qui est juste à droite ici dans la table périodique des éléments, qui a donc 15 électrons, lui, donc il en a, et 15 protons. Donc il a un électron de plus et un proton de plus. Alors j'ai pris seulement un plan d'atome là, et j'ai remplacé en fait, imaginons, je vais vous montrer comment on fait ça, mais imaginons qu'on est capable d'introduire un atome de phosphore dans un cristal d'atome de silicium. Que se passe-t-il ? En fait, vous avez sur chaque atome, vous avez tous ces électrons et toutes ces lésions atomiques. Et puis ici, à cet endroit-là, vous avez un proton de plus et un électron de plus. D'accord ? Alors, un proton et un électron, c'est ce qu'on appelle, dans les modèles de physique de base, un atome d'hydrogène. Un électron qui orbite autour d'un proton, c'est un atome d'hydrogène. Donc en fait, ce système-là, vous pouvez le voir comme vous avez tous ces atomes de silicium qui sont en fait qui ont un certain nombre d'électrons et de protons. Et puis vous avez celui-là, là, qui a un proton de plus et un électron de plus. Et finalement, on va pouvoir, en première approximation, se dire que ce système-là, ce n'est rien d'autre qu'un système homogène, d'un matériau homogène, dans lequel j'ai introduit ici un atome, un proton et un électron qui va orbiter autour de ce proton. La différence, ça c'est un atome finalement d'hydrogène plongé dans un solide constitué d'atomes de silicium. Ce solide, que va-t-il faire sur l'interaction entre l'électron et le proton ? Eh bien, en fait, l'électron va toujours être attiré par le proton, mais il va y avoir tous les nuages électroniques des autres atomes de silicium autour qui vont réduire l'interaction coulombienne. Et donc finalement, quand on calcule les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, c'est un des premiers exercices qu'on fait quand on apprend en première année de mécanique quantique ou en deuxième année, on trouve que l'énergie de l'atome d'hydrogène, alors je ne l'ai pas rappelé, quand on prend simplement un atome d'hydrogène avec un électron et un proton, eh bien on va trouver qu'on va avoir des niveaux d'énergie qui sont quantifiés et qui sont proportionnels au Rydberg. Et le Rydberg, ah pardon, je ne l'ai pas noté de la même façon. Donc, pardon, c'est en n carré. Je l'ai écrit ici, comme ça. Eh bien, cette énergie de Rydberg, c'est en ME4, E c'est la charge de l'électron, sur 2, 4 pi epsilon 0. H bar 2, et ça, c'est ce qui nous donne le 13,6 électron-volts de l'énergie liaison de l'atome de l'électron sur l'atome d'hydrogène. Eh bien, que se passe-t-il ici avec mon système où je rajoute un atome de phosphore dans un système plein d'atomes de silicium ? J'ai finalement plongé un atome d'hydrogène dans un environnement diélectrique qui va faire apparaître ici. Je vais avoir, alors ça c'est le Rydberg, pardon, ça c'est le vrai Rydberg, et donc là je vais avoir un Rydberg effectif pour ce système-là, qui va être la même formule, sauf qu'on va avoir deux changements. On va avoir le fait que eh bien, l'interaction coulombienne elle est écrantée par la constante de permittivité d'électrique. Et puis, en fait, la masse de l'électron qui se propage dans un cristal de silicium, ce n'est pas la masse de l'électron libre. On peut décrire l'électron dans un cristal de silicium comme un électron libre. Et on met toute l'interaction qu'il a avec le cristal autour dans la masse qui va être soit plus lourde, soit moins lourde que celle de l'atome de l'électron dans l'espace libre. Donc on va introduire une masse effective. Et donc la valeur que je vous donne ici, alors c'est une valeur imprécise parce qu'en fait la notion de masse effective, elle dépend de la direction de propagation de l'électron. Et là je suis en train de regarder un atome d'hydrogène avec un électron donc, qui orbite dans les trois directions de l'espace. Mais l'ordre de grandeur est là. L'énergie de liaison d'un électron à l'atome de phosphore dans un cristal de silicium, c'est quelques dizaines de milliélectronvolts, 30-40 milliélectronvolts. Alors, tout ça pour dire que si je mets un atome de phosphore dans un cristal de silicium, je vais avoir un électron lié à un proton avec une énergie de liaison de 30 milliélectronvolts, 300 Kelvin la température dans cette pièce, ça correspond à peu près à une vingtaine de milliélectronvolts. Donc vous voyez qu'à température ambiante, l'électron ne reste pas accroché au proton. Et c'est comme ça que les électrons dans les cristaux de silicium vont conduire le courant à température ambiante. Par contre, si je me mets à très basse température, et en l'occurrence ici, les chercheurs se mettent aux alentours de 10 millikelvin, cette fois-ci, l'électron va être vraiment accroché à son noyau, au proton, du phosphore dans l'atome de silicium. Alors un phosphore, comme il a un électron de plus et un proton de plus, on appelle ça un donneur, c'est une impureté donneuse dans un cristal de silicium. Alors à partir de cette idée d'introduire un phosphore dans un atome de silicium, dans un cristal de silicium, nous avons eu cette proposition théorique par Kane en 1998 de construire un ordinateur quantique à base de d'impuretés dans le silicium en utilisant le spin de l'électron ou le spin du proton comme bit d'information quantique. Ce qui est représenté ici, c'est, alors, vous voyez ici le cristal de silicium et puis une espèce de dessin de la fonction d'onde de l'électron autour du noyau de l'atome de phosphore. Et puis, ils ont rajouté ici un petit schéma où il y a écrit gate, c'est un contact électrique. Le contact électrique va appliquer un champ électrique qui va déplacer la fonction d'onde de l'électron. Et on va pouvoir pousser la fonction d'onde de l'électron vers la surface et l'éloigner de là où est l'atome de phosphore. Pourquoi c'est intéressant de faire ça ? Eh bien, parce que quand on écrit l'interaction entre le spin de l'électron et le spin du proton de l'atome de phosphore, on a en fait un hamiltonien qui décrit donc les niveaux d'énergie liés au spin de l'électron et le spin du noyau. Et puis il y a un terme qu'on appelle un terme d'interaction entre le spin du noyau et le spin de l'électron, on appelle ça l'interaction hyper fine, qui en fait, il faut visualiser ça comme l'interaction entre deux moments magnétiques élémentaires, et qui va faire interagir le spin de l'électron et le spin du noyau. Et cette interaction, elle a un coefficient devant qui est proportionnel à la fonction d'onde, à l'amplitude de la fonction d'onde de l'électron à l'endroit où est l'atome de phosphore. Donc ici, j'ai une interaction entre mon électron et mon noyau que je peux contrôler en appliquant une tension, la tension que j'ai dessinée ici, parce qu'en appliquant une tension, je vais pouvoir déplacer le centre de gravité de la fonction d'onde de mon électron par rapport à la position du noyau et je vais pouvoir allumer ou éteindre l'interaction entre le spin du noyau et le spin de l'électron. Et ainsi, avec cet outil, pour faire interagir le spin de l'électron et le spin du noyau, Kane propose toute une architecture pour utiliser le spin de l'électron ou le spin du noyau, suivant à volonté en fait, et pour encoder l'information et utiliser donc les portes logiques, les contacts électriques pour mettre en résonance, mettre en résonance ou pas les atomes et les électrons pour les faire interagir. Et puis utiliser, vous voyez ici, appliquer un champ magnétique comme on a vu pour la manipulation de notre qubit, un champ magnétique selon Z qui va définir les niveaux d'énergie et un champ magnétique fluctuant qui va nous permettre d'emmener notre qubit d'un point ou l'autre de la sphère de Bloch. Et simplement, ils vont utiliser les contacts électriques pour faire en sorte que le champ magnétique appliqué qui manipule le qubit entre en résonance avec la résonance, avec la fréquence qui permet la manipulation du qubit. Je vais vous montrer un exemple très rapidement. Avant ça, je vais vous montrer comment on fabrique ces objets. Comment fabrique-t-on des cristaux très purs de silicium où on va venir mettre de manière très précise un donneur, un atome de phosphore ? Alors, les chercheurs partent d'une surface de silicium et ils vont commencer par déposer hydrogéner la surface, c'est-à-dire quand on a un cristal, je vous avais dit le silicium, ils ont quatre liaisons. Évidemment, à la surface, il y a des liaisons qu'on appelle pendantes, parce qu'il n'y a pas d'atomes auxquels s'accrocher. Donc il y a des liaisons qui restent, qui vont attraper tout un tas de molécules. Hein. Souvent, ça va s'oxyder avec l'air de la surface, etc. La première étape, ça va être de nettoyer tout ça et de plonger le cristal dans de l'hydrogène et de mettre à chaque liaison pendante des hydrogènes. Déjà, c'est joli. Ensuite, ils vont prendre un microscope à effet tunnel où on va approcher une pointe et en fait contrôler la tension qu'on applique entre la pointe et le matériau au-dessus duquel on passe la pointe microscope. Et ce qu'ils vont faire avec cette pointe qui permet, alors vous voyez ici des images où on voit les atomes un par un du cristal de silicium, eh bien en jouant sur la tension appliquée, ils vont en fait enlever les atomes d'hydrogène très localement, très précisément, au-dessus de certains atomes. Donc ils vont commencer par préparer la surface. Donc on considère que la surface devrait être une surface de silicium. Ils ont mis dessus de l'hydrogène. Et là, ils vont vouloir mettre des atomes de phosphore. Ils ont enlevé les petits atomes d'hydrogène. L'étape d'après, ça va être d'exposer cette surface où on a libéré des liaisons qui sont libres, puisqu'on a enlevé l'atome d'hydrogène, à un gaz qui est du phosphore H3. Et ces phosphores, accompagnés d'atomes d'hydrogène, vont venir s'accrocher là où on a enlevé l'atome d'hydrogène. Parce qu'il y a une liaison vacante qui est disponible, ils vont venir s'accrocher là. On envoie du PH3 et il y a un atome qui va partir pour s'accrocher à l'atome de silicium. Et puis dans une étape suivante, ils vont chauffer le cristal à une température ici qui est 350 degrés pour en fait favoriser l'évaporation de l'hydrogène. Et à chaque fois qu'on enlève un atome d'hydrogène, que se passe-t-il? Eh bien, si j'avais un pH 2 ici et que j'ai un atome d'hydrogène qui veut s'enlever, il va falloir qu'on va créer une liaison pendante. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va en fait déplacer cet atome-là et l'envoyer, l'amener ici, par exemple, où il sera connecté à deux atomes. Et il ne restera plus qu'un atome d'hydrogène. Et ainsi de suite, comme ça, en cascade, les chercheurs montrent qu'ils vont pouvoir, en enlevant progressivement les atomes d'hydrogène, mettre le phosphore entre deux atomes de silicium. Et la dernière étape, ce sera en fait d'extraire l'atome de silicium qui va venir se mettre en surface et le phosphore va se mettre à la place de l'atome de silicium. Et donc on voit ici un atome de phosphore qui s'est mis en surface à la place d'un atome de silicium. Donc on est capable de positionner. Alors l'erreur sur le positionnement, en fait, ce qu'ils expliquent dans cet article, c'est qu'on ne sait pas où l'atome va se positionner sur trois sites. Donc ils ont une erreur de positionnement qui correspond à plus ou moins une période de l'empilement atomique. Et ensuite, ils vont remettre du silicium pour mettre leur atome de phosphore plutôt dans la profondeur du cristal de semi-conducteur. Ils ont cet atome de silicium, de phosphore pardon, dans le cristal de silicium. Et ils vont ensuite définir des contacts électriques pour pouvoir appliquer des tensions pour, alors comme je vous l'avais déjà montré, approcher ou retirer la fonction d'onde de l'électron, l'approcher ou l'éloigner du noyau du phosphore. Mais aussi pour contrôler, c'est ce qui est montré ici dans ces diagrammes en diamant, en fait, l'état de charge du donneur. Le donneur, c'est phosphore, c'est un phosphore, donc il a un proton plus un électron. Et en appliquant des tensions particulières, ils vont pouvoir ioniser, retirer l'électron et garder simplement le proton, par exemple, ou introduire un électron de plus. Tout ça en contrôlant les niveaux, les contacts électriques. Alors voilà à quoi ressemble le contrôle d'un qubit dans ces systèmes. Je vous montre ici, donc ils ont ici leur impureté de phosphore, ils ont des contacts électriques qui permettent d'appliquer toutes ces étapes pour contrôler les états. Et en fait, on a deux qubits, on a le spin du phosphore ou le spin de l'électron. Et on va pouvoir jouer avec l'un ou l'autre ou lire l'état du spin du proton, du noyau, avec le spin de l'électron. Les niveaux d'énergie sont présentés ici. Alors, on a coutume de présenter avec des flèches simples le spin de l'électron et des flèches doubles le spin du proton. Et on a donc bien sûr les deux spin up, un spin up, un spin down, les deux spin down et l'autre spin down et un spin up. Donc on a quatre états de spin qui sont présentés ici et on a différentes fréquences qui correspondent. En fait, ils appliquent un champ magnétique constant, B, 0 ici, et donc on va avoir des niveaux d'énergie qui dépendent de ce champ magnétique ici. Et on a donc quatre fréquences de résonance, quatre fréquences qui correspondent ici, donc ça correspond au H bar oméga 0 que j'avais tout à l'heure pour mon spin down et spin up. Cette fois-ci, je vais avoir la fréquence de résonance qui correspond à l'électron avec un spin down ici et avec l'électron avec un spin. L'électron ici a le spin down et up, ça va de spin down à spin up puisque c'est ce qui me permet de passer de spin down à spin up et avec le spin du phosphore qui reste dans le même état, down ici ou up là. Et donc l'expérience qu'ils vont réaliser, qui est montrée et que je vous montre ici, ça va être d'abord d'identifier les résonances, de trouver la fréquence à laquelle je fais basculer mon spin de l'état, mon spin nucléaire, le spin du noyau, de l'état up vers l'état down, ou le spin de l'électron de l'état up vers l'état down. Donc ici, les fréquences bleues, c'est sans changer l'état du spin du noyau, je change l'état du spin de l'électron. Donc c'est une résonance électronique, electron spin resonance. Et ils vont scanner la fréquence de rotation du champ magnétique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour la résonance magnétique nucléaire. Et à une résonance donnée, il y a un signal qui va apparaître qui correspondra au fait qu'on aura fait basculer l'électron du spin up vers le spin, pardon, du spin vers le bas, vers le spin qui pointe vers le haut. Et ils identifient ici donc deux fréquences de résonance qu'ils maîtrisent bien, qu'ils identifient bien, et qu'ils sont capables d'utiliser donc pour faire basculer le spin de leur électron d'un côté ou de l'autre ici. Et vous voyez que ces deux fréquences de résonance dépendent si le spin du noyau était, lui, dans un état qui pointe vers le bas ou qui pointe vers le haut. Et puis, donc ça, c'est comment manipuler le spin de l'électron à deux fréquences différentes suivant le noyau. Mais on peut également utiliser le spin, directement le spin du noyau, pour encoder un qubit entre le spin qui pointe vers le, A, le haut ou qui pointe vers le bas du noyau. Alors, C'est ce qui est fait sur cette expérience. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement, ils font exactement ce que nous avons vu dans l'expérience de résonance magnétique nucléaire pour contrôler un spin. Ils le font à la fois pour l'électron et pour le noyau. Et ils identifient ici la fréquence qui permet de faire passer le spin nucléaire de l'état bas vers l'état haut, nu N1 ici. Et en faisant, comment ils mesurent l'état du spin nucléaire ? Eh bien, ils le font en détectant l'état de l'électron. Donc, ils manipulent, ils font osciller le spin du noyau et ils vont lire l'état du spin du noyau en lisant l'état de l'électron en utilisant les deux autres résonances que je vous ai montrées avant. Et ce que nous voyons ici, c'est la probabilité de trouver le spin du noyau. Alors, je ne sais plus si c'est dans l'état du bas, en haut ou en bas ici, mais c'est exactement les oscillations que je vous ai montrées tout à l'heure. En fonction du temps, ils sont capables de faire passer le spin du noyau de l'état pointant vers le bas vers l'état pointant vers le haut de manière périodique ici au cours du temps. Donc vous avez ici la démonstration de la manipulation d'un spin, d'un noyau dans un atome de phosphore introduit dans un cristal de silicium qui constitue un des systèmes pour développer des ordinateurs quantiques. Alors je vous ai présenté le système le plus simple, je dirais, dans ces structures pour créer un état de spin. C'est-à-dire que j'ai pris un cristal de silicium, j'ai rajouté un atome de phosphore. Ça se décrit comme un atome d'hydrogène plongé dans un environnement d'atomes de silicium, donc dans un matériau diélectrique. Et finalement, un atome d'hydrogène, ça a des niveaux d'énergie qui sont définis. Et on sait décrire ce système assez facilement, je l'espère, comme je viens de vous l'expliquer. Il y a beaucoup d'autres façons de créer des qubits de spin individuels dans le silicium, qui vont cette fois-ci utiliser les matériaux de la micro et de la nanoélectronique, qui vont prendre un cristal de silicium et qui vont faire des structures, des nanostructures par lithographie électronique et définir des circuits. Alors on peut fabriquer des nanocristaux, simplement prendre un tout petit bout de cristal de silicium, ça va créer un confinement pour les électrons qui vont donner des niveaux d'énergie discrets, comme montré là. Mais on peut aussi tout faire avec les outils de la lithographie et de la microélectronique. Je vous ai mis ici deux articles, c'est bien les articles un peu plus anciens parce qu'en général ils expliquent mieux les bases, et puis les articles les plus récents pour les développements les plus récents, donc deux articles de revue qui donnent un peu une vision d'ensemble sur ce type de qubit. Je pense que j'ai ici pris un article qui est proche de l'état de l'art actuel, même s'il date de 2022, qui montre en fait une puce, donc c'est une expérience faite aux Pays-Bas, à Delft. C'est une puce qui manipule 6 qubits de silicium. Donc vous avez ici 6 petites, alors ce n'est pas des donneurs individuels comme ceux que je vous ai montrés, ils ont fait des petits pièges à potentiel pour les électrons à chaque endroit. Et vous avez donc 6 spins individuels ici. Ce que je vous montre ici, c'est les oscillations, exactement les mêmes oscillations de Rabi pour chacun de ces qubits. Je trouve que c'est très joli, hein, vraiment des très belles oscillations, très peu. Alors elles sont très régulières, nous verrons au cours numéro 3 que c'est beau d'avoir des oscillations comme ça, il peut se passer plein de choses pendant ces oscillations, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Et puis, il montre pas mal de choses dans cet article-là, et en particulier, il montre ici qu'ils ont été capables, en faisant, ça c'est un diagramme qui montre des portes logiques, comment ils ont été capables de créer un état intriqué à 3 qubits, à côté les uns des autres, Q1, Q2, Q3 ici, en utilisant, alors bien sûr, je peux pas expliquer tout ça ici, mais en utilisant maintenant des couplages entre deux spins côte à côte pour créer des états intriqués entre les deux spins voisins. Nous allons voir dans la suite de l'après-midi un deuxième exemple de spin. Alors, ça ne sera pas un spin 1,5, ça sera un spin un peu plus compliqué, mais un spin dans un système individuel qui est en fait dans un atome, dans un cristal de diamant. Donc, un cristal de diamant, c'est un cristal avec du carbone, que des atomes de carbone. Mais on peut avoir des impuretés, une lacune par exemple, on peut avoir un atome de carbone qui manque et qui va avoir à ses côtés un atome d'azote. On appelle ça un centre NV, comme N azote en anglais et V vacance, c'est-à-dire l'absence d'un atome. La structure de ces systèmes est un peu plus complexe que ce que je viens de vous expliquer, mais on a en fait des niveaux d'énergie avec des états de spin. Essentiellement ici 3 états importants, un état en bas ici qui est un état, donc en fait on a un spin total qu'on appelle un spin de 1, les spins de 1 c'est plus compliqué que les spins 1,5 parce qu'on a plus d'états propres, et donc on a 3 états propres, un état ici de spin nul selon Z et un état de spin moins 1 et plus 1 selon Z. Et ce que va nous montrer Jean-François Roch, c'est qu'avec ces matériaux, en fait, quand on donne de la lumière au cristal, par exemple on éclaire dans le vert, eh bien, on va avoir une émission qui va avoir lieu dans le rouge. Mais cette émission, en fait, parce qu'il existe d'autres états ici qui apparaissent sur ce diagramme des états, en fait, l'émission de lumière rouge va être moins intense ici que sur cette raie-là, du fait de la présence d'autres états autour. Et finalement, qu'est-ce que ça... Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on va avoir plus de lumière quand on excite le système et qu'on revient dans l'état de spin 0 que quand on excite le système et qu'on va revenir dans les états de spin plus ou moins 1. Et donc, ces états-là, qui ont des états de spin non nuls, plus ou moins 1, on va pouvoir lever la dégénérescence de ces états en appliquant un champ magnétique. Et donc, on va voir, si on regarde l'intensité de luminescence, on va avoir un creux de luminescence qui correspond à la recombinaison ici, à une résonance ici entre ces deux états. Et cette résonance entre ces deux états va dépendre de l'intensité du champ magnétique au voisinage de notre défaut. Et donc, ces objets qui ont un spin, une structure de spin très sensible au champ magnétique, sont utilisés notamment pour faire des capteurs de champ magnétique de manière très, très précise. Alors, j'arrive à la fin de mon exposé. Dans les quelques minutes qu'il me reste, je vais juste mentionner une dernière chose qu'il faut faire une fois qu'on a défini un qubit. Donc, on a mesuré le qubit, ça nous a permis d'initialiser. On a appliqué un champ magnétique fixe et oscillant, ça nous a permis de le manipuler. Et ensuite, on va vouloir avoir des techniques pour mesurer l'état. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer l'état d'un qubit ou l'état d'un spin ? Eh bien, en fait, on va vouloir mesurer l'état, c'est simplement connaître les composantes du vecteur de bloc dans les trois directions de l'espace. Le vecteur de bloc, ah ben voilà, j'ai oublié un h bar sur 2, ça c'est tout moi. Je rajouterai, il manque un h bar sur 2 ici. Rz fois h bar sur 2, c'est la valeur moyenne de S, de l'opérateur S selon Z. Et donc c'est la différence de la probabilité de mesurer le système dans l'état plus Z et le système dans l'état moins Z. Alors, on dirait en fait qu'il suffit que je mesure donc le spin selon Z, le spin selon X et le spin selon Y pour connaître mon état quantique. On dirait trois mesures, parce qu'un vecteur de bloc, trois valeurs à trouver, hein, trois nombres réels. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Parce que quand on fait j'ai refait un dessin, par exemple, d'appareil de Stern-Egerlach ici, et que j'envoie mon système dans l'appareil de Stern-Egerlach, et que j'ai ici, je dévie mes spins, vers le haut ou vers le bas, sinon que leur spin est up ou leur spin est down, j'ai derrière quelque chose qui détecte mes atomes, un détecteur. Et donc un détecteur, ça a une efficacité, ça a une réponse. Et donc en fait, le signal que je récupère sur mon écran ici, sur mon détecteur, il n'est pas égal, bien sûr, à la probabilité de trouver mon spin dans l'état plus Z, mais c'est simplement proportionnel. Et cet aspect proportionnel, c'est compliqué, parce que en fait, est-ce qu'on peut vraiment calibrer l'efficacité d'un détecteur ? Ça, c'est un problème extrêmement compliqué. Donc ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va plutôt faire deux mesures, qui sont en apparence redondantes. On va mesurer la probabilité de le détecter dans l'état plus Z et la probabilité de le détecter dans l'état moins Z. Et pourquoi on fait ça ? Parce que la somme des probabilités égale 1. Et donc, dans la somme des probabilités, à chaque fois, j'ai un coefficient de proportionnalité qui vient de la réponse de mon détecteur. Mais en faisant le ratio de la différence de mes deux mesures avec la somme, là, pour le coup, j'ai vraiment accès à la composante selon Z de mon vecteur de bloc. Et donc, je vais plutôt faire deux mesures pour trouver une coordonnée. Et donc, on fait la mesure précise d'un état quantique, on appelle ça réaliser la tomographie d'un qubit, eh bien, on va plutôt faire 6 mesures dans les trois directions de l'espace pour avoir vraiment accès aux composantes du vecteur de bloc. Alors, avec un dernier... avec ces dernières parties, je veux juste, bien sûr, élargir mon propos. J'ai pris dans ce premier cours l'exemple du spin 1/2 qui en fait nous introduit tout le formalisme nécessaire pour comprendre comment on encode la formation, on la lit et on la manipule. Mais le formalisme que j'ai introduit là et que j'ai illustré avec un qubit de spin qui est celui par exemple d'un spin dans le silicium, finalement va nous permettre ce formalisme d'écrire exactement les mêmes systèmes dans des atomes. Alors là j'ai pris par exemple une structure que nous reverrons dans quelques semaines pour décrire les ions. Vous avez dans des atomes un peu complexes, des ions de calcium par exemple, tout un tas de transitions optiques. Et finalement, vous allez définir les deux états qui définissent votre qubit. Vous allez isoler deux états et vous allez appeler ça votre qubit. Et une fois que vous avez décidé quels sont les deux états qui vous concernent, vous allez pouvoir adopter le formalisme du spin, un demi que je vous ai présenté, pour décrire une bonne partie de la physique que vous êtes en train de mettre en œuvre, surtout quand vous essayez de manipuler votre spin et de faire des portes logiques avec eux ou de détecter d'autres grandeurs comme le champ magnétique avec. Un autre exemple que nous verrons dans 3 semaines, par l'illustration par Audrey Bienfait, les qubits supraconducteurs, ce sont des circuits qui sont fabriqués avec des matériaux supraconducteurs où on introduit une jonction. En fait, au lieu d'avoir un circuit simplement métallique, on va introduire une petite jonction ici avec un isolant, un oxyde. Et cette petite jonction va donner lieu à des niveaux d'énergie qui sont en fait qui ne sont pas équidistants. Alors que si on enlève cette jonction, on a des niveaux d'énergie équidistants. Et comme on a des niveaux d'énergie qui ne sont pas équidistants, je peux décider que ces deux niveaux-là, ça c'est mon spin. C'est mon qubit. C'est là que je vais encoder mon qubit. Et nous verrons tout un tas d'autres exemples de systèmes. On isole un système à deux niveaux. Et finalement, tout ce que je vous ai décrit ici avec la manipulation de spin, c'est ce qui va nous permettre de décrire la manipulation de qubits avec des champs magnétiques. Et dans 2 semaines, nous élargirons ce formalisme à la manipulation avec des champs électriques et des champs optiques aussi. Alors pour terminer et pour faire un petit peu de... En anglais c'est un teaser et là je trouve pas le mot, pour vous donner envie pour la suite, je vous donne un exemple ici d'expérience que nous avons réalisée dans notre équipe avec mes collaborateurs, où on manipule aussi des spins d'un électron unique dans ces objets que j'avais introduits dans la sonde inaugurale qui sont des boîtes quantiques semi-conductrices, où on a aussi des états qui nous intéressent, soit le spin est up, soit le spin est down. Et ce qui est intéressant dans ce système, et je vous montre ici des données qui datent d'une publication d'il y a 2 ans, et qui vous montrent précisément cette mesure de l'état du vecteur de bloc pendant que notre spin précesse au cours du temps. Donc ce que vous voyez ici, c'est une tranche du vecteur de la sphère de bloc. Je n'ai pas tracé en 3 dimensions, j'ai juste pris une intersection d'un plan. Et vous voyez ici le spin qui part du spin up, par exemple, et qui précesse et qui évolue au cours du temps. Et il se passe quelque chose qu'on n'a pas à discuter encore aujourd'hui. Le vecteur rentre dans la sphère de bloc, il ne reste pas sur la sphère de bloc. Et c'est la décohérence. Ce que vous voyez également dans cette figure, c'est que la lecture, en fait, l'expérience que je vous montre n'est pas simplement une expérience de manipulation de spin. Ce que nous avons fait dans cet article, c'est que nous avons intriqué deux photons et un spin. Et en fait, on mesure l'état de spin en mesurant l'état du photon, l'intrication donnant des résultats parfaitement corrélés entre 2 particules. J'accède à l'état de mon spin en mesurant l'état d'un photon. Et donc ça, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent. La semaine prochaine, comme je l'ai annoncé, nous parlerons de la lumière comme support de l'information quantique. Et la semaine suivante, nous aborderons ces phénomènes qui font que un vecteur de bloc sur un spin ne va pas forcément se propager sur la sphère, mais va finir par rentrer dans la sphère. C'est ce qu'on appelle la décohérence, c'est ce qui détruit la superposition quantique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.